Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé du livre de Guy Bollet, notre invité?
Oh, formidable, j'ai adoré.
Oh,
j'ai adoré.
Moi aussi, très belle histoire, vraiment.
Oh, et puis quel style.
Oh oui, ce type écrit presque aussi bien que moi.
Voilà. Salut les filles.
Salut les garçons.
Ah, ben voilà, nous ne resterons pas plus longtemps entre gens de bon goût.
On reçoit qui? On reçoit qui?
Un formidable écrivain, Guy Bollet.
Ah, bah, et c'est pourtant pas la saison.
Oh, que c'est brillant, que c'est brillant.
Et demain, on reçoit Michel Pleurotte, non?
Voilà, comme ça, bah, on l'évacue, on la fera pas pendant l'émission.
Ouais, alors mais... ça, je te confirme qu'on la fera pas pendant l'émission. Hein. Donc, Clara, revenons-en à l'intrigue du roman.
Oh, c'est fin, c'est subtil. Oh,
je reste authentique.
C'est quoi l'histoire?
C'est beau l'histoire de cet homme forgeron et boxeur et qui devient artiste.
Ah bah, comme mon père, parce qu'il était cheminot, puis après il était libraire.
Oui, Guy Bollet lui-même a eu plusieurs vies. Ah, hein. Il était maçon, cracheur de feu, chauffeur de bus, cascadeur, garde du corps, funambule.
C'est romanesque et cette histoire de transmission, comme si le fils devait réaliser le rêve de son père.
C'est comme moi, mon père, il était chanteur de chansons françaises. Et moi, regarde, je te promets le
ciel. Non, mais ça va aller, Alex, parce qu'on ne peut pas être tous à la hauteur de ses gènes.
Et c'est quoi le titre du livre?
Quand Dieu boxait en amateur.
Ah ouais. Tu m'étonnes que Dieu il boxe pas en professionnel.
C'est sûr, s'il en prend une qui tend l'autre joue.
Bam! Je crois que je fais une allergie à la bêtise.
Oh. À cause de qui?
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up émission.
C'est sûr?
Ouais,
on a eu un petit doute, mais en fait, c'est ça.
Allez. Le pouvoir est taxé, lui aussi, taxé d'arrogance. Et cette arrogance serait l'essence versée sur le feu de la colère. Alors, est-ce une caractéristique inhérente au pouvoir? En tout cas, l'arrogance reste à la portée de tout le monde, hein, avec son corollaire.
Adressez-vous à l'intendant, nous on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise.
Si le discours politique est creux et que les Français parlent vrai, alors est-ce qu'ils peuvent dialoguer? Le bras de fer actuel s'observe aussi sur le terrain des mots. Sur le terrain, je dirais, sociolinguistique, n'est-ce pas?
Il ne faut pas raconter non plus des caravistouilles à nos concitoyens. Hein.
Et que deviennent tous les mots inusités qui ont disparu des dictionnaires? Eh bien, ils se retrouvent dans un dictionnaire des mots disparus, pardi.
Et ton langage démodé, on a trop kiffé, c'était génial, on s'est éclaté.
T'évites quand je suis plongé dans un dossier, ça me dégoûte.
Lui, il connaît la langue française de A à Zgeg. C'est Alex
Vizorek.
C'est
brillant. C'est brillant. Blague de tub. 17h10. Je vous présente quand même la belle équipe autour de la table à 17h20. Normalement, plus on prend de l'âge, plus on s'apaise. Lui, c'est l'inverse. Le Benjamin Button des barricades. Hippolyte Girardot, bonjour.
Ben bonjour, bonjour à tous.
De quoi on parlait?
Eh ben, aujourd'hui, on va parler de relaxation.
Ça m'étonnerait.
Et révolution.
Très bien. À 17h30, celui qui s'entendait très bien avec tous les gens du Nord, jusqu'à ce qu'il rencontre Gérald Darmanin. Bonjour, Guillaume Meurice.
On pense à lui. Eh ben, écoutez, la Startup Nation est en danger. Je suis allé voir la Startup Nation.
Ben, on va parler des startups open source et d'hypercroissance, des hypergrowth.
On va se régaler. On va se régaler.
Et enfin, 17h40, celle face à qui, depuis 4 ans, je cache mal mon désir physique. Je suis le Christophe Castaner de Clara Dupont-Moineau. De quoi on va parler?
Bonsoir, on va parler du livre de notre invité.
Du livre de notre invité.
C'est pire en pire.
Eh oui, voici celui qui va enjailler notre open space. Enjailler, assez peu usité dans le centre de Paris, mais utilisons-le. Vous êtes...
Guy Bollet.
Oui,
c'est lui. Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Guy Bollet.
Oui.
Vous publiez « Quand Dieu boxait en amateur », c'est publié chez Grasset. On peut dire que vous étiez dans la première sélection du prix Goncourt d'ailleurs.
Oui.
Et vous avez déjà été couronné de nombreux prix avec votre précédent roman. Oui. « Quand Dieu boxait en amateur », c'est un portrait de votre père, forgeron, boxeur, artiste et amoureux des mots au point de lire le dictionnaire. Alors « Quand Dieu boxait en amateur », Dieu, c'est lui, c'est votre père?
Oui, bien sûr que c'est mon père. C'est mon père. Alors, comment, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour moi parce que j'ai un petit-fils qui est né à 3h cette nuit.
Oh,
il est grand-papa.
Voilà, le même jour que François de Rugy.
Oh, félicitations.
Grand-papa. Donc, j'ai fait, comme je savais, dans le TGV, j'ai fait un petit texte, il n'est pas long, je peux le lire.
Ah, voilà, je vous en prie, bien
démarre.
Sûr.
Mon téléphone sonne. Que se passe-t-il par Vulcain? Je regarde à deux fois, c'est 3h du matin. J'entends alors une voix qui me dit « Par Jupiter, il est né le marmot. Par Zeus, me v'là grand-père. C'est un petit garçon d'amour auréolé. Il est beau par Junon, n'est pas laid par Juppé. Il est déjà boxeur, mais sans protège-dents. Catégorie léger de 3,2 kg. Il se prénomme Ezra. Sa vie sera divine. » puisqu'il est né sous le règne de la déesse Charline.
Oh, oh là là. Merci Guy Pollet.
Je me suis dit qu'en faillotant un peu d'emblée,
comment on va dire du mal du bouquin.
Et bienvenue au monde, bienvenue parmi nous.
Alors que ça se trouve, il va finir à HEC le gamin.
Pourquoi ? À cause de ça ?
Je sais pas. En opposition, toujours.
Vous pensez qu'il sera boxeur ?
Moi j'ai des enfants qui ont fait de la boxe chez moi. Moi j'ai une salle de boxe, mais mes petits-enfants, j'ai deux petites filles, déjà un petit garçon. Ils ont fait de la boxe avec moi, mais c'est pas de la boxe pour faire mal aux autres, c'est de la boxe pour être bien dans sa peau, bien dans son corps. Quoi,
voilà. Alors il est né le jour de la Saint-Nicolas, c'est la fête de tous les enfants dans l'est de la France, dans le nord de la France et en Belgique. Et donc on embrasse tous les enfants qui nous écoutent. Donc Dieu, votre père, hein, qui boxait en amateur. Alors c'est votre deuxième roman, et pendant 30 ans, vous avez essuyé des refus d'éditeur. Alors qu'est-ce qui fait que brusquement un jour, vous recevez un coup de fil d'éditeur et que tout s'emballe et que ça fonctionne ?
Pendant 30 ans, j'ai un peu écrit le même roman. Je voulais raconter l'histoire de mes parents qui montaient des opérettes dans la cuisine. La cuisine, le quartier populaire qui est décrit dans mes deux romans. Mm-hmm. Mes parents étaient très beaux chanteurs, ils chantaient très bien l'opérette et ils montaient des opérettes pour les voisins, les cheminots, les ouvriers d'usine et tout ça, avec le minimum de décors et de costumes et de maquillage qu'ils avaient sous la main. Ils jouaient les opérettes, moi je mettais le tourne-disque, il y avait des disques vinyles, on changeait, on avait choisi avant Mexico, l'Auberge du Cheval Blanc, enfin toutes les grandes opérettes et tout ça quoi. Et pendant 20 ans, je me suis obstiné à écrire ce roman. Et je me suis rendu compte que je collais trop à la réalité et que le roman n'a rien à faire avec la réalité. Autrement, c'est un récit, autre chose comme ça. Et un jour, au bout de 20 ans d'essais et de mauvais romans, ce roman qui s'appelait l'opéra des humbles, l'opéra des pauvres, et puis après il s'appelait opérette, branlette et majorette, qui était mon titre que j'adorais.
Plus vendeur,
mais qui n'a pas eu trop de succès quand même chez mes amis éditeurs, tout ça.
Peut-être fallait mettre juste branlette à ce moment-là.
Je débutais dans le métier, je savais pas les conseils d'un haut de saunois, donc.
Onanisme seul, et c'était Flammarion. Hein.
Oui, effectivement, mais comme je voulais participer au gilet jaune, je me suis dit chez Grasset, la couverture jaune, c'est quand même pas mal, parce que au début, je croyais que les gilets jaunes, c'était pour Grasset. Vous voyez, c'était
c'est vrai que c'est
c'était la couleur du gilet jaune.
Il y en a.
C'est Grasset qui vous a. En fait, vous avez eu un jour, un beau jour, un coup de téléphone d'un éditeur. Alors, comment
ça s'est passé? Oui, j'ai envoyé par la poste, oui. J'ai eu deux coups de fil, à des vrais. J'ai envoyé à deux éditeurs. Un premier avec lequel, on ne s'est pas entendu au téléphone assez vite. Et puis, Grasset qui m'a téléphoné. Mais en fin de compte, j'avais envoyé un autre roman. Et l'autre roman, ils ont été attirés par le style du roman, mais pas par la forme, pas par la charpente. Et ils m'ont demandé si j'avais pas autre chose, et j'ai envoyé celui-là, enfin le premier, Fils du Feu, auquel je croyais moins qu'à celui que j'avais envoyé. Puis en fin de compte, ils m'ont édité. Puis maintenant, on est parti pour une trentaine d'années. D'après ce qu'il me reste à vivre. Quoi.
Vous avez été boxeur comme votre père. Vous écrivez, vous cherchez le mot qui tape juste et qui met KO aussi, dans le style.
Oui, il y a que ça qui m'intéresse. Enfin, à dire vrai, c'est un peu ballot pour un romancier de dire qu'il n'aime pas le roman, mais je suis un peu comme Pierre Michon, qui est mon maître en écriture, mon maître et ami en plus, ça fait 20 ans que je suis ami avec Pierre. Et Pierre, dans ses entretiens sur littérature, il dit « Je me méfie du roman dans lequel se perd l'énergie de la prose ». Et moi, j'écris un peu comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est le chant du mot, c'est la mélodie. C'est comment faire. C'est pour ça que le dictionnaire des mots, là, dont on va parler tout à l'heure, m'intéresse bien. Il y a que ça qui m'intéresse. Et en fin de compte, c'est les mots mis bout à bout qui vont lancer la phrase, qui vont lancer le chapitre, créer les personnages. J'ai aucune idée de personnage quand j'écris, de structure, pour de bon. J'ai aucune idée absolue, rien. Mmh. Les personnages arrivent parce que ce sont les mots qui les poussent, quoi, qui les font venir.
Je vais me permettre de lire un extrait. Vous parlez de votre grand-mère. Votre père, donc forgeron, l'a dit, artiste, boxeur, qui adorait les mots au point de lire le dictionnaire. Sa mère qui trouve que le dictionnaire, c'est un peu le diable et elle ne veut pas qu'il lise, préfère qu'il fasse de la boxe, qu'il soit viril, etc. Vous parlez d'elle, c'est un peu le négatif de votre père. Animal, végétal, minéral, force primaire, écartelée telle une vallée, secrète telle une source, sombre telle une grotte, vivant comme un pommier produit des pommes et n'habitant depuis la mort de son époux que deux saisons austères, l'hiver passé et l'hiver à venir. Bref, si on devait la résumer en une formule aussi homérique que cristalline, une belle chieuse. Tout le roman de Guy Pollet est écrit avec ce style flamboyant, magnifique, tel un boxeur qui fait des petits pas, puis bim, il vous met KO. Quand Dieu boxait en amateur, on va y revenir, bien sûr, c'est paru chez Grasset, la couverture jaune. Oh mon Dieu, oh, ils sont à la porte. Vous écoutez Par Jupiter, vous êtes sur France Inter. Bump, baby, I plan to be.
Cadillac and watch for the hand. Jubop, baby, jubop, baby. Says my name. Jukebop, baby, you're playing a strange game. Fly trumpet player, looking for fame. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Oh, jukebop, baby, you're playing Johnny Rep. Oh, hot shot gambler, looking for play. Oh, jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby. Jukebop, baby, jukebop, baby.
Jukebox Babe, vous êtes sur France Inter. Merci à Djoubaka pour cette programmation musicale qui nous met la patate dès le début de l'émission.
Patate.
Et oui, nous sommes en compagnie de Guy Bollet qui a écrit Quand Dieu boxait en amateur, paru chez Grasset, pour entourer Guy Bollet, Alex.
Eh bien, Hippolyte Tchérardo, qui va nous parler révolution.
Guillaume et relaxation.
Et relaxation. Et Clara Dupont-Mono, bien entendu.
C'est parti pour l'info.
Bon, alors là.
Si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors. Nous n'appliquons pas cette place.
Le journal de presque 17h17.
Mais là, tu vois, tu vas avoir un gros problème. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller embrasser ta mère une dernière fois.
Et on commence par les titres.
Éric Drouet, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, a appelé sur BFM les manifestants à prendre l'Elysée samedi.
Oui, oui, Macron, il commence à regretter d'avoir écrit un bouquin dont le titre était « Révolution ».
François de Rugy a confirmé que les hausses de taxes sur les carburants sont annulées pour 2019.
Eh oui, de Rugy, il va finir par nous faire croire que Nicolas Hulot avait un très très bon bilan au gouvernement.
Et les brèves.
Oui, dans un climat comme celui-ci, je pense qu'il n'y a que les brèves pour sauver le monde.
Pas sûr.
Si,
ouais,
si,
d'accord.
J'ai réfléchi avant de dire ça.
Allez-y.
On commence par souhaiter
un excellent anniversaire à François de Rugy.
Ah, ah. Bon anniversaire. J'espère que cette année, ils vont lui offrir une conscience écologique. Ça va lui faire tellement plaisir.
Et donc, les Gilets jaunes veulent prendre l'Elysée car ils disent que c'est le symbole du gouvernement.
Si vous y arrivez, enlevez les chaussures en entrant parce qu'il y a une nouvelle moquette à 5000 boules.
Donc, 300 000.
300,
ouais. Ah ouais, mais il y a les rhinos aussi. Hein.
Mais pas sûr. Pas
ouais,
sûr.
Enfin, vous avez, ouais, c'est vrai que s'ils arrivent, à mon avis, à la fin de la journée, l'Elysée risque de ressembler à un immeuble de la rue d'Aubagne à Marseille.
Côté politique, oui. Le Parti Socialiste, la France Insoumise et le PCF sont tombés d'accord sur une motion de censure contre le gouvernement.
Il est balèze, Macron. C'est le premier président qui arrive à faire l'union de la gauche depuis Mitterrand, il est balèze.
Le président, qui l'a confirmé, il ne rétablira pas l'impôt sur la fortune.
Et ça c'est donner ses données, reprendre ses volets.
Ce matin sur France Inter, Gérald Darmanin...
Ah, il était sur France Inter ce matin.
Je crois, il paraît. Moi, je suis pas au courant, mais il paraît.
Qu'est-ce qu'il a déclaré?
Par rapport à l'ISF, oui, il a dit « On ne juge pas le 100 mètres haie au bout de 12 mètres ».
Oui, si après 12 mètres, t'as déjà mangé la première haie, hein, tu te doutes quand même que tu vas pas courir pour la médaille.
International, à présent. Aux États-Unis, un enfant a mis fin à l'interdiction des batailles de boules de neige dans sa ville, une interdiction qui datait de 1920.
Ça, c'est fou, c'est fou.
Ah, oui, qu'il ait réussi à faire lever cette interdiction.
Non, c'est fou de se dire qu'aux États-Unis, il y a des villes qui interdisent les batailles de boules de neige, mais pas les fusils d'assaut. C'est fou quand même.
Russie, oui. François Fillon a été reçu par Vladimir Poutine dans sa résidence privée.
Tu racontes pas la gueule de Poutine quand il s'est aperçu qu'il avait payé les billets d'avion de Pénélope et qu'il est pas venu.
Justement, People. Ah, oui.
Dans un ouvrage du journaliste Marc Dolizy, un après-midi chez Carla, on apprend que Carla Bruni avait fait une apparition en lingerie dans le bureau de son mari lorsqu'il était président de la République en pleine réunion avec François Fillon.
Que
quelle indignité.
J'aurais pas des mûches.
Bon, des brèves alors.
Oui, alors bonne nouvelle, hein. Annecy et Chambéry vont offrir des préservatifs aux reblochons à l'occasion du SIDAction. C'est une bonne idée, il y aura à boire et à manger, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais.
La dernière alors, une dernière. Bon, dites faites-la vous alors. États-Unis, un prof licencié d'une école primaire après avoir dit aux enfants que le Père Noël n'existe pas.
Parce que,
merci Alex, à demain. Dis ce que je viens de dire. Allez, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, de toute façon. C'est la Saint-Nicolas. Bien. Vous êtes sur France Inter. Vous êtes bien là, non ? Nous aussi, on est bien
on
avec vous.
Dit,
vous écoutez par Jupiter. L'écrivain Guy Bollet est avec nous et le boxeur. Et quand Dieu boxait en amateur, paru chez Grasset, il s'agit de son père, mais vous avez boxé. On se méfie. On va essayer de ne pas vous énerver.
Mais si, vous avez raison.
Alors, il y a quelques mois, lors d'un déplacement, le président de la République avait sermonné à un adolescent en lui disant « Le jour où tu veux faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme ». Eh oui. Alors, est-ce de l'arrogance? Est-ce interprété comme étant de l'arrogance ou du mépris de notre part? C'est en tout cas un ingrédient de la colère ambiante. Beaucoup de Français le disent et en témoignent. Voici le reproche qui existe finalement chez le commun des mortels. Hein.
Maintenant qu'il n'y a vraiment plus rien à perdre, vous voulez bien l'inviter à Zadeh Anwari?
Qui?
Mon afghane.
Ah non, Hélène, écoute, tu vas pas recommencer. Bon, moi, je vais voir ce que fait Pavel.
Et est-ce qu'elle a du bon shit d'abord?
Immonde.
Oh, mais franchement, putain! Qu'est-ce que tu veux que ton afghane aille foutre dans mon émission? Le public, il en a marre de la misère du monde. Le public, il veut du pain et des jeux. T'es pas au courant?
Qui crève les faibles. Ils avaient qu'à être forts.
Voilà, exactement. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Il y a des lions, il y a des gazelles. Il y a les plus forts et les plus faibles. Et ça ne changera jamais.
Arrête.
Que tu le veuilles ou non.
Bah, écrit, évidemment. Non. Place publique, film d'Agnès Jaoui. Alors, le texte de la quatrième de couverture de votre roman, Guy Bollet, commence par ces mots. Dans une France rurale, aujourd'hui oubliée. Alors, oubliée car lointaine dans le temps, mais aussi lointaine dans l'espace. Est-ce que plus on se sent loin de tout géographiquement, plus le sentiment d'arrogance du pouvoir central peut paraître fort et exacerbé?
Non, pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là que cette quatrième a été écrite. Je crois qu'on parle plutôt d'une époque révolue, parce que le monde a changé dans les années 70. Enfin, moi, j'ai l'impression que le monde, depuis la révolution de 89, il n'est pas trop bougé. Il avait mis les commerçants et les bourgeois au pouvoir à la place des aristocrates. Et puis, tout d'un coup, ça a été assez plan-plan. Il y avait une espèce de morale comme ça qui stagnait. Et tout d'un coup, on est arrivé aux années 70 qui, eux, ont bouleversé les consciences, ont bouleversé... Enfin, quand on parle des années 68-70, tout le monde ricane un petit peu. Parfois qu'on ricane, c'est pas grave, mais il y a eu quand même un véritable bouleversement. Toutes les valeurs de nos parents, des anciens, ont été mises à bas avec une violence incroyable. C'est plutôt de ce bouleversement dont je parle dans le roman, avec l'apparition du monde moderne qui était aussi bien dans le béton que dans la mécanique, que dans les bagnoles, que dans c'est les trains à vapeur qui n'avaient plus de vapeur, quoi. La forge qui s'arrêtait, parce qu'il n'y avait plus rien à forger. Enfin, il y a tout un pan de l'artisanat de du vieux monde qui s'est écroulé avec l'époque moderne qui a montré le bout de son nez, quoi. Mais je crois pas qu'on est vraiment très loin du pouvoir, hein. C'est-à-dire que je sais pas si ça nous intéresse, enfin si ça intéressait tant que ça, en fin de compte. On avait sa petite vie à mener, quoi. C'est comme dans le truc de Stravinsky, là, avec le diable qui dit on fait son métier, son petit métier, hein, dans le... Comment ça s'appelle, là? Allons, un peu de culture, là.
Le soldat,
l'histoire du soldat. Voilà, l'histoire du soldat de Stravinsky.
L'histoire du soldat de
Stravinsky.
Petit ours brun, vous voulez dire?
Petit ours brun.
Non, c'est pas dans Petit ours brun. Je connais très bien Petit ours brun.
Ah. Vous parlez le roman s'ouvre sur Besançon, petite ville de l'Est de la France, qui, sous ses airs de ne pas y toucher, n'en n'est pas moins capitale de la Franche-Comté, de l'horlogerie, préfecture du Doubs, etc. Et vous dites, plaqué au creux d'une cuvette naturelle, comme l'est une pâte feuilletée dans le fond d'un moule à tarte.
Oui.
Donc
oui.
On est aussi un lointain géographique. Oui. Mais si on en revient à l'actualité, je prends par exemple cette pleine page du Parisien aujourd'hui en France, qui cite l'un des gilets jaunes qui dit Macron nous méprise. Comment vous voyez cette façon dont l'attitude du pouvoir est ressentie dans la majorité de la France? On parle d'arrogance, on parle de mépris. Est-ce justifié? Est-ce que c'est l'essence qui est versée sur le feu?
Je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de ça. Je ne me sens pas autorisé à parler de choses politiques en mon nom. Enfin, vraiment, quoi.
L'arrogance, vous y faites face de temps en temps par rapport à, je sais pas moi, ça peut être on y fait tous face à un chef, face à un contrôleur
oui,
de train.
Oui, oui, enfin bien sûr. Moi j'ai fait de la boxe, je m'en fous, hein, donc ça va.
Ça aurait été voilà, le problème, c'est vrai.
Voilà, enfin, ça, on a vu dans le train quand on était ensemble. Bref. Non. Je pensais, là, en venant à l'émission, je pensais à Nietzsche qui disait « L'art n'a pas pour fin de laisser des œuvres que le temps ruine, mais de créer des artistes dans tous les hommes et d'éveiller dans le vulgaire le génie endormi. »
Alors, bam
moi, merci. Oui. Alors, moi, je me place plus, comme quelqu'un qui essaie de réveiller le génie endormi, chez les gens. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé en prison, dans les quartiers dits défavorisés, dans les bidonvilles qui s'appelaient cités de transit. J'ai beaucoup travaillé avec des compagnies de théâtre, comme je suis dramaturge, je vis de la dramaturgie de pièces de théâtre. J'ai pas travaillé pour les grands trucs nationaux, les machins, tout ça. Bref, les trucs que j'aime pas, quoi. Comme ça, c'est dit, on n'en parle plus. J'ai toujours travaillé dans des petites compagnies de village qui faisaient des boulots. Et je me suis dit que apporter la parole, apporter l'écriture, apporter la littérature, c'était plus. Je me sentais plus dans mon rôle là-dedans. Maintenant, ceux qui veulent apporter l'or, qu'ils le fassent. Je leur laisse ma place, quoi.
Et votre père n'était pas du tout. Il aurait pu être syndicalisé. C'était l'époque où les syndicats avaient beaucoup de poids. Il fait partie de la classe ouvrière, votre père. Et pourtant, à aucun moment dans le livre que vous avez écrit sur lui, on ne voit de traces d'engagement politique au sens large.
Il n'y a pas de syndicat. C'était pas à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard. Les syndicats, ça, avec certitude, sont arrivés beaucoup plus tard. Même les fameux LIP dont on parle tant, quoi, les ouvriers de LIP, là, je veux dire un truc qui va les faire hurler, mais là, au début, ils n'étaient pas vraiment syndiqués. Ils sont syndiqués après, quand ça a commencé à bouger. Mais les syndicats sont montés avec la révolte, en fin de compte. Enfin, sont nés un petit peu avec la révolte. Mais je crois qu'il y a eu peut-être, il y a un moment, peut-être en 36, il y a eu peut-être un mouvement, je sais pas si ça s'appelait syndical, avec la SFIO et tout ça. Mais après.
Mais il n'y avait pas de conscience de classe à ce moment-là,
non,
c'est ça que
vous
voulez
dire? Non, il n'y avait aucune conscience. Ils n'estimaient pas que les pauvres étaient méprisés, ils estimaient que les pauvres étaient à leur place. C'était des humbles, voilà.
Voyez. Alex Vizorek?
Oui, tout à l'heure, vous vouliez parler, je pense, de l'histoire du soldat, créé en 17 par Stravinsky pour trois récitants.
Merci
le lecteur,
Google,
le soldat,
il a eu le temps.
Et le diable, créé à Paris en 18 par Georges Pitoëf. Et le projet a été annulé au dernier moment du fait de la grippe espagnole et a été repris uniquement en 1923.
Vous êtes bien, trop fier.
Quelle culture.
Il fallait le temps que ça me revienne.
Et c'est là-dedans qu'un personnage, il y a un personnage qui n'arrête pas de dire on fait son métier, son petit métier, voilà, il dit ça.
Il parle au diable.
Voilà comment la culture nous a élevés
dans l'acte 2, je crois. La scène 14 de l'acte 2. Oui. C'est ce que me disait Vizorek.
Merci Clara. Ouais. Alors, est-ce qu'avant de faire la révolution, vous avez passé votre diplôme, Hippolyte Girardot?
Non. Aïe. Je trouve qu'on stresse quand même pas mal en ce moment, à plein d'égards, pour plein de raisons, notamment avec le climat. Et donc, quand on stresse, il faut se relaxer. Je voulais vous parler de l'ASMR. C'est l'acronyme de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse sensorielle autonome culminante. Bref, en gros, c'est des petites vidéos à la con qui sont censées te relaxer, te détendre avant de t'endormir. C'est le smoothie du micro, le higue des ondes, le valium sonore. On entend toutes sortes de sons, comme ce que vous entendez là. Brossage de cheveux, chuchotement, petits frottis sur des paquets de chips. Ces stimuli sonores déclenchent des picotements agréables, sensuels, au niveau du cuir chevelu et de la colonne vertébrale. Un peu comme la voix de Macron qui déclenche des émois sensuels chez Castaner. Ou les blagues de Guillaume et Charline qui éteignent toute capacité de répondre à Darmanin au 7-9 de ce matin. Ou alors, plus explicitement, la voix de Michel Thor sur le corps caverneux d'Alex Vizorek. Je me demandais bien qui pouvait écouter ça, parce que moi, personnellement, non, ce qui me relaxe, peut m'endormir, n'a rien à voir avec le grattage d'un coton ou une caresse sur du velours. Non, ce qui peut me faire planer haut et fort, mis à part la salade marocaine, évidemment, c'est par exemple ceci.
Il y a combien le SMIC?
Alors oui, pour moi, rien de plus apaisant qu'une joute oratoire entre deux mondes qui ne se répondent plus depuis longtemps. Quand ces rixes viennent me chatouiller le canal auditif, je prends mon envol vers un monde nouveau. Je rêvasse avant de tomber dans les bras de Morphée qui, lui, m'emmènera dans les vrais rêves troublés et troublants de mon inconscient que le docteur au cigare m'expliquera à l'aube. Durant ce moment, entre l'éveil et le sommeil, sommeil, je me plaise à imaginer la défaite du monde ancien, où aristocrate, noble, petit marquis, prince et le monarque, évidemment, comprennent qu'il est temps de ne plus mépriser la plèbe qui ne l'est que par l'immense fossé monétaire organisé par les élites. Oui, je fantasme alors un monde où ces élites seraient punies par des justiciers venus du pays du soleil levant, seuls capables de réduire d'extravagants privilégiés à de simples personnes qui n'ont besoin de rien d'autre finalement que de 91 cm de paille de riz par 182, un petit tatami. Mais est-ce encore un rêve? Non. Néanmoins, ces douces images amortissent ma chute dans la nuit et à la manière qu'a un trampoline de vous donner une chance de recommencer un plongeon, à nouveau je jouis d'une nouvelle fois d'une vision merveilleuse. Je songe que je pénètre dans un château où le petit fumoir de la taxe carbone est déserté, où le petit salon de la prime de fin d'année est vide, où le boudoir des réformes lycéennes est déblayé. Et enfin, oui, mes chimères me déposent devant le dernier oui et j'entre léger comme une plume dans le salon de l'impôt sur la fortune. Et découvre enfin la cassette remplie d'Emmanuel d'or, protégée par son gardien, mandaté par ceux qui l'ont placé là en toute confiance. Je le prends, ce coffre, et disperse à tout va par la fenêtre ce qu'il contient. Ça y est, je suis relaxé. Je me sens sur la pente de l'oreiller moelleux quand...
Au voleur, assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être...
Ah diantre, ce cri me réveille soudain et me crée des picotements violents, cette fois au niveau du cuir chevelu et de la colonne vertébrale. Fini la ASMR, j'en ferai presque une jaunisse. Alors non, je pense à Hugo, Victor et à son poème L'Arc de Triomphe. Paris qui garde sans y croire les faisceaux et les encensoirs, tous les matins dresse une gloire, éteint un soleil tous les soirs. Toujours Paris s'écrie et gronde. Nul ne sait, question profonde, ce que perdrait le bruit du monde le jour où Paris se tairait. Eh oui, rien de plus relaxant qu'une bonne révolution.
Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte. À réécouter sur franceinter.fr, bien sûr.
Le cinéma français est en PLS.
C'est Guy Bollet qui est avec nous, qui publie chez Grasset. Quand Dieu boxait en amateur. C'est tellement bon, ça, Maud Jody sur France Inter. par Jupiter. En compagnie de l'écrivain Guy Bollet, à venir Clara Dupont-Monod, car Hippolyte Gérardot a déjà fait son petit devoir révolutionnaire. À côté de lui, le néanmoins camarade Guillaume Meurice.
Eh bien, rien ne va plus dans la Startup Nation. Les Gilets jaunes ont complètement ubérisé le process de la révolution. Tout le monde est paumé. Il y a tout et n'importe qui dans la rue. L'Action française et le NPA, mon boulanger, le chien de ma voisine. Il y a même Hippolyte Girardot qui monologue des discours révolutionnaires tout en rotant du Dom Pérignon au bar du Fouquet's. C'est le bordel complet. On sait même pas si la maison de la radio va pas cramer ce week-end. Tout le monde se demande si la permanente de Guy Lagache tiendra jusqu'à lundi. La France a peur. La France a peur. Et en face, t'as le gouvernement qui flippe, quelques gugus paumés qui sortent des grandes écoles comme Harry Potter. Sauf que le balai, ils l'ont dans le cul. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation.
Avec élégance.
Hein, le prix Pulitzer, normalement, c'est pour moi, cette année. Alors, pour faire un petit topo là-dessus, un brief, on va faire un brief, comme on dit, je suis allé à l'événement Open Source ce matin. Vous y étiez pas, vous avez encore loupé celui-là. Grand rendez-vous de start-upers, à chaque fois je vous dis, mais vous venez pas. Alors, c'est mon dernier recours, parce que les start-upers, c'est l'avenir. Hein. Ils avaient donc des solutions en business innovation. On commence avec un premier, et je vous promets que ma question était simplement, qu'est-ce que vous faites là?
Nous, ce qu'on fait, c'est proposer une solution d'orchestration et de clustering.
Orchestration et clustering?
C'est ça. Donc, on couvre un périmètre fonctionnel qui part de... On est une alternative à des solutions comme Kubernetes, Mesos ou Swarm dans le domaine de l'orchestration de containers, avec la gestion des problématiques inhérentes à ces plateformes qui sont les Ingress Gateway, Layer 4, Layer 7, du réseau de back-end, du DNS privé au cluster.
On a une approche c'est technique, hein.
C'est assez technique, effectivement, mais...
Est-ce que tout ce que vous venez de dire veut vraiment dire quelque chose?
Ah oui, complètement.
Ah voilà, non, mais c'est moi, hein. Ah, ben, j'ai pas le background là, je suis désolé. Mais bon, c'est pour vous dire, je pouvais pas être plus au cœur de la Startup Nation
c'est
que ça.
C'est interminable ce qu'il raconte. Oui.
Mais ça veut dire quelque chose, a priori.
Peut-être qu'il nous a donné une super info en plus.
Mais peut-être, il y a des gens qui vont nous dire, mais c'était pertinent, voilà. Donc, Startup Nation, il y avait de la trottinette électrique partout, ça puait le quinoa, ça transpirait de la conf-call ASAP. Et il y avait donc ce monsieur qui milite quand même pour un logiciel libre, ça il m'a bien dit, pardon. Donc, il résout un petit peu les problèmes d'égalité.
On apporte des solutions qui sont gratuites, qui permettent d'utiliser les logiciels sans dépenser un seul euro. Donc ça, déjà, je pense que c'est un premier pas.
Mais quelque part, ouais. Quelque part, vous êtes un gilet jaune.
Merci pour cette comparaison.
Voire même un zadiste.
Ouais, je pense que vous allez trop loin, là.
Voire même un punk à chien.
J'y arrive pas, là.
Non, attendez, il faut faire étape par étape. On ne peut pas passer de start-upper à punk à chien du jour au lendemain. Il faut d'abord monter un business, faire faillite, se rendre compte que la vie n'a aucun sens, lire un livre de Pierre Rabhi, tenter de se suicider avec de l'homéopathie, et après seulement, on boit de la 8-6 devant les Monoprix. Un petit peu le parcours de Clara Dupont-Monod. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les gilets jaunes sont dans un process disruptif.
Bah oui, ils ont... Oui, bien sûr, oui, totalement. Ils ont été disruptifs. Inattendu.
Les gilets jaunes, ils sont Startup Nation, du coup.
Alors là,
peut-être pas.
Je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse deux minutes à la question.
Ah bah alors là, ça vaudrait le coup, parce qu'on attend tous quand même avec impatience la prochaine prise de parole de Macron. Et vu l'état psychologique du gars, il est capable de commencer par « Salut les connards !» Si vous voulez pas crever, montez votre boîte, d'accord? Devenez leader dans les inbox. Moi, je partirai pas. Je vais vous faire chier jusqu'au bout. C'est mon projet. C'est peut-être ça. Donc, devenez tous start-upers. Alors, quelle serait la différence entre les start-upers et les gilets jaunes?
La différence entre eux et nous, c'est que on sait d'où on part. Je suis pas sûr de comprendre et que le sache. Moi, je sais où je veux aller.
Attendez, parce que là, déjà, moi, je sais pas où vous allez dans cette phrase.
La stratégie.
Où vous allez?
Moi, j'ai une stratégie. En tant qu'industriel, j'ai une stratégie.
Mais vous allez où?
On attaque le monde.
Bam! Allez! Oh là, on y va, d'accord.
On a un winner.
On attaque le monde. Là, on a un winner. Hein, ça a quand même une autre gueule que de chouiner pour 20 balles de points total. Je suis quand même désolé. Est-ce que Napoléon, il organisait des manifs pour récupérer la CSG? Bah non, le gars, il attaquait le monde. Il y avait... Si vous avez d'ailleurs un arc de triomphe à taguer aujourd'hui, c'est quand même grâce à Napo. Donc un petit big up pour lui quand vous allez cramer des trucs dessous. D'accord? Ça ferait plaisir à tout le monde. Et on continue avec ce monsieur.
Et demain, on va devenir le leader du stockage.
Ça, les gilets jaunes aussi, ils attaquent le monde. Hein.
Oui, mais ils savent pas, ils veulent pas être leader au niveau mondial.
Ah, ils veulent pas être leader du stockage.
Mais là, vous m'emmenez sur la politique, on va pas y arriver là.
Attendez, parce que ça fait 10 jours que j'essaye de réconcilier la France d'en haut, d'en bas, de côté, dessous. Attention, Guy, restez pas là! Vous allez vous en prendre une force, je contrôle plus rien. Donc à un moment donné, il faut m'encourager un petit peu. Je suis là pour apaiser le débat. Posons définitivement la question. La Startup Nation est-elle compatible avec les gilets jaunes?
J'en sais rien, j'en ai aucune idée. À mon avis, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu orthogonal, on va dire.
Orthogonal, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Pourquoi mettre des mots simples quand on peut faire compliqué ?
C'est pas faux, parce que des mots simples, la majorité, voilà, en utilise et ils sont souvent dénués de sens. Et les autres mots sont juste des mots M-A-U-X, parce que rappelons quand même que Macron fait tirer sa police contre les gosses dans les lycées, disperse les manifs à coups de grenade, laisse des familles se noyer en Méditerranée. Donc le mec voulait diriger la France comme une entreprise. Allez Manu, il est temps de déposer le bilan.
Merci Guillaume Meurice. 17h42.
Je vous ai fait un petit bilan.
C'est un petit bilan.
Qui devait se sacrifier pour avoir la parole du gouvernement dans l'équipe. On n'avait pas désigné celui-là.
On n'avait pas dit Vizorek.
Mais je suis un peu pris de court, hein, parce que je vais encore devoir me sacrifier.
On a décidé pendant que vous étiez chez Ardisson. Je suis désolé, il faut choisir dans la vie.
Exactement. Allez, on poursuit avec Guy Bollet, écrivain et boxeur, car on a bien senti comment vous aviez esquivé le sujet 1 sur l'arrogance des pouvoirs. Alors, on va essayer d'y revenir, mais sous un autre angle. Donc, d'un côté...
Il ne va pas échapper au contrôle fiscal. Vous allez l'avoir, le contrôle, Guy.
Guy Bollet, donc
d'un côté... Je ne gagne pas assez. Je gagne moins qu'un gilet jaune.
Alors, ils sont d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté, les politiques, souvent mis dans le même sac que les médias. Alors si justement ces deux sphères, gilets jaunes d'un côté, politique médiatique de l'autre, ont du mal à dialoguer, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes mots. Donc le défi est aussi linguistique.
Alors puisque vous êtes le chef cuisinier, vous allez m'attraper des pommes de la terre et nous faire des frites.
Des pommes de terre ?
Non, les pommes de la terre. Où c'est qu'elles viennent les patates ?
De la terre ?
Oui, elles viennent pas du le ciel. Ah, j'ai l'impression qu'on n'y est pas.
Isabelle Nanty dans Les Tuches 3, film d'Olivier Barou, et voilà toute la différence par exemple. C'est un article intéressant paru sur Slate.fr qui, rappelons-le, appartient au Rothschild, mais c'est Slate.
Et qui nous fait des bons sujets 2 et 3.
Mais écoutez, Slate est toujours là, et pour notre plus grand plaisir et pour l'information. C'est un article qui s'appelle Le défi posé aux médias par les gilets jaunes, qui est aussi linguistique. Alors, Guy Bollet, par exemple, à force de vouloir faire de la pédagogie, c'est vrai que tous nos politiciens, ceux qui sont au pouvoir et veulent expliquer leurs réformes, etc., veulent faire de la pédagogie, pour être sûr que les réformes sont bien comprises par le plus grand nombre. Mais est-ce que ça peut être reçu un peu comme une insulte à l'intelligence, toute cette pédagogie ?
Je dois répondre à cette question un peu compliquée, là.
Parce que moi,
j'ai lu l'article où il y a le texte de Bourdieu. J'ai même pas compris le texte de Bourdieu.
Ah, non, moi non plus. C'est vrai que tu es content de me l'entendre
content
dire.
Que, voilà.
J'ai rien compris.
Alors, je vous donne compris, un extrait. Voilà. Une parole de Bourdieu en 79, paru dans Libération et donc retranscrite par Slate, qui propose de résister aux paroles neutralisées, euphémisées, banalisées. Bref, à tout ce qui fait la platitude pompeuse de la nouvelle rhétorique énarchique, mais aussi aux paroles rabotées, limées jusqu'au silence, d'émotions, résolutions, plateformes ou programmes. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? C'est genre les gens qui disent plans sociaux, la place de licenciement...
Alors, prenons le problème autrement. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, ils sont invités sur les plateaux, dans les médias, etc. On les entend. Donc, pour la première fois, on a une émergence qui vient un peu, on dit, d'en bas, des territoires, des régions. On entend des accents à la télévision, on entend des gens... Je dirais normaux pour caricaturer un peu.
Je peux régler la couleur de sa télé.
des Français qui parlent normalement avec des accents, avec un vocabulaire qu'elles notent dans la vie de tous les jours et pas les experts, les éditorialistes, les sociologues, les instituts de sondage. Est-ce que ça vous frappe aussi? Peut-être qu'ils parlent pas tout à fait le même langage et que d'un côté, il y a un langage, comme disait Bourdieu, peut-être qui est devenu creux, usé.
Il y a un accès à la parole, j'en parle dans Quand Dieu boxait un amateur, il y a un accès à la parole auquel les catégories humbles, on va dire comme ça, pensent ne pas avoir accès, ne se sentent pas le droit d'avoir accès. Oui. Moi j'ai travaillé beaucoup en milieu carcéral, atelier d'écriture et tout ça, et les détenus, j'ai eu les mêmes pendant 3 ans, le même groupe pendant 3 ans, à la fin ils arrivaient à parler comme tout le monde. Alors qu'au début, ils s'autorisaient pas ça. C'est eux qui s'autorisaient pas.
C'est-à-dire parce qu'il y a un complexe.
Bien sûr qu'il y a un complexe. Le complexe du pauvre, le complexe de l'inculte, le complexe de l'analphabète, ou celui qui n'a pas été à l'école beaucoup. Et ils se sentent pas en droit même de penser. Et voilà. Dans ma famille, par exemple, même quand on parlait du passé, même quand on parlait ce qui s'est passé pendant les guerres, ils n'en parlaient pas. Ils disaient non, de toute façon, ils n'avaient pas accès à ça. Ils pensaient pas qu'ils pouvaient exprimer une pensée avec les mots de pauvre qu'ils avaient. Et là, il y a effectivement, il y a un problème de communication. communication, de langage, oui, vous voulez dire quelque chose.
Bah oui, c'est là, d'autant plus où l'élite a une fonction d'être exemplaire. Oui. Il n'y a rien de plus beau qu'un accent. Et quand Mélenchon raille l'accent, quel qu'il soit, que ce soit une journaliste ou quelqu'un d'autre, c'est dévastateur comme effet, puisque c'est justement à l'élite de montrer une forme d'exemple, quoi. Mmh. Et cette espèce de moquerie était terrible, parce que ça crée un complexe, du coup.
Mmh. Et c'est vrai que quand on voit sur les plateaux de télévision des gens avec un langage châtié, formaté, etc., on ne se sent presque pas autorisé à y aller en parlant naturellement.
Oui, mais même Bourdieu, qui dans son texte parle des pauvres, moi je fais lire le texte à mon père, enfin il est mort maintenant, mais il aurait pris sa masse avec son enclume, là, et puis il l'aurait laminé. Hein,
et on est au cœur du roman aussi, parce que votre papa, il travaille à 14 ans, il est forgeron, etc., mais il est tellement attiré par les mots qu'il lit le dictionnaire et il s'interroge, il se dit mais est-ce qu'une petite cour c'est une courette, tiens je vais aller vérifier. Donc
et pourquoi une rue c'est pas une ruette,
exactement, du coup. Oui. Donc c'est vraiment le cœur de votre roman aussi, cette question là.
Oui. Une rue c'est pas une ruette, c'est un clin d'œil à ma fille quand elle avait 12 ans, elle avait fait des mots fléchés et puis elle avait mis une ruette à la place d'une ruelle.
C'est logique.
Clara Dupont-Monod, revenons donc au roman de Guy Bollet, notre invité
et notre actualité. Charline, je rappelle que c'est donc le livre de notre invité, Guy Bollet, qui s'appelle « Quand Dieu boxait en amateur ». Alors, on l'a un peu dit, mais je le rappelle, mais c'est un livre sur votre père. Et alors, en général, la littérature, on s'aperçoit qu'elle a une fibre un peu féministe, puisqu'elle parle plus facilement de la mère. La figure paternelle est un peu plus rare. Alors, vous avez choisi donc votre père. Le livre s'ouvre sur votre père dans son dernier acte. Il est allongé dans la chambre surchauffée d'un hôpital. Et tandis qu'il dort, vous posez votre main à côté de la sienne, sur le drap, je cite, « main de statue marbrée aux veines saillantes, et au bout d'un moment, à force de les regarder, ces deux mains, je cite, je ne savais plus très bien de ces deux mains laquelle appartenait à qui. » Alors cette scène, elle est non seulement très belle, mais surtout, elle est assez révélatrice. D'abord, vous allez me dire si vous êtes d'accord, Guy Bollet, mais je pense qu'il faudrait un jour écrire sur l'importance de la main en littérature. Parce que la main, c'est la première audace de Julien Sorel, par exemple, qui veut prendre discrètement sous la table la main de Madame de Rênal dans le Rouge et le Noir. Il hésite, il a peur, il se lance, il attrape sa main. Or, il s'aperçoit que la main de Madame de Rênal, elle est glaciale. Et ça va préfigurer une histoire polaire. C'est pas pour rien. C'est aussi Emma Bovary, dans Le Fiacre avec son amant, qui enlève ses gants et qui va rester les mains nues. Et ce geste vaut pour déshabillage intégral. Et puis, c'est enfin la main de votre père, Guy Bollet, qui est fine et qui est abîmée et qui, en fait, résume le mieux ce que votre père a été, forgeron, boxeur et puis écrivain à ses heures perdues. Donc la main fut donc son outil de travail, sa défense et aussi son échappé. Et d'ailleurs, après sa mort, vous avez retrouvé un petit carnet écrit très serré, puisque votre père recopiait des mots compliqués du Larousse avec leur définition, par exemple ectropion, euphorie, amprium, personne ici ne sait ce que c'est, moi non plus, mais c'est ces mots qu'il recopiait. Et c'est là où vous comprenez que cette vie minuscule, comme dit votre ami écrivain Pierre Michon, cette vie minuscule de votre père a toujours caché un immense amour des mots, du beau langage que votre père ne maîtrisait pas et que sa mère, votre grand-mère, détestait. Je cite, « Il sent qu'il ne pourrait pleinement exprimer ses émotions qu'avec des mots de feu, de fer, d'acier, des mots sans fioritures, sans dentelle au poignet, mais il n'y parvint pas, il n'y parviendra jamais, écrivez-vous. » Et c'est sans doute pour cela qu'il a choisi de cogner, que ce soit l'enclume ou l'adversaire. Être forgeron et boxeur, cela veut dire qu'on martèle à défaut de parler. Ça veut dire aussi que c'est un art autre que les mots. D'ailleurs, on dit jouer au foot, jouer au tennis, on ne dit pas jouer à la boxe. C'est pas pour rien que c'est surnommé le noble art. Mais voici qu'arrive le plus beau pour moi. C'est que le fils de cet homme-là, donc vous, est justement devenu écrivain. Vous êtes le produit de quelqu'un qui s'en méfiait et vous avez décidé d'en faire votre métier. Vous écrivez comme on brise un malheur familial. Et vous faites comme Nina Bouraoui, que nous avons reçue ici, qui expliquait que sa mère se méfiait des mots et elle-même en a fait son métier. Et ce que vous racontez, Guy Bollet, c'est que parfois les enfants prennent en charge les rêves de leurs parents. C'est-à-dire que c'est un désir inassouvi qui se donne en héritage silencieux et c'est l'enfant qui en assure la concrétisation. Comme quoi la littérature est parfois quand même une affaire contagieuse. Mais c'est la mère de Romain Gary qui se rêvait artiste et c'est Gary qui devint ce que sa mère rêvait d'être. C'est la mère analphabète du romancier Yasmina Kadra. Tout est dit. C'est aussi le père d'Aaron Appelfeld qui a été refusé par tous les éditeurs et dont le fils est devenu un rêve pour les éditeurs. Et ce sont tous ses parents en qui brûlaient les mots. Cette brûlure a été comprise par l'enfant et c'est ce qui se passe avec votre père Guy Bollet. Il vous a implicitement transmis ce désir d'écrire. En un mot, il a passé la main. Donc on y revient. Je vous donne les références. Quand Dieu boxait en amateur de Guy Bollet est paru chez Grasset.
Merci Clara Dupont-Monod. C'est bien vu Guy Bollet ?
Oui, c'est que dire de plus quoi. J'ai toujours, sans vouloir aller dans votre sens, mais je m'étais toujours dit que si je devenais peintre ou photographe, je peindrais des mains ou photographierais des mains. J'ai une passion des mains d'enfant surtout. Hein, voilà. Et puis par rapport au reste, effectivement, là on parle encore de ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots, les humbles, les pauvres qui veulent accéder aux mots. C'est comme un pauvre qui devient riche. Qui va gagner au loto, il va être parvenu, il va s'acheter des habits pourris, il va s'acheter des bagnoles pourries, enfin, qui pour lui représentent le luxe, mais pour nous c'est complètement ringard quoi. Et les pauvres, dès qu'ils veulent parler bien, ils vont utiliser des mots dont personne ne sert, parce qu'ils ont l'impression que c'est le sommet de tout quoi. Et mon père était un peu comme ça effectivement, et dans cette histoire de transmission, moi j'étais comédien à un moment, et puis j'ai joué, il est jamais venu me voir parce que ça lui faisait trop de mal de voir que moi j'avais réussi. Et un coup j'étais funambule, j'ai vu une ascension d'une cathédrale qui était à côté de chez nous, il est pas venu, et moi j'étais un peu triste parce qu'il ne m'avait pas vu. Mais il ne pouvait pas avoir ça. Parce qu'en fin de compte, les rêves qu'il avait au fond de lui, sa véritable nature d'artiste, qu'il n'a pas pu assouvir. C'est moi qui l'ai fait. Je crois qu'il y a une certaine douleur de sa part et une certaine fierté, mais cachée, quoi, bien sûr. Quoi.
Et revenons à cette passion qu'il avait des dictionnaires, alors, parce que quand on ne se sert plus des mots, ils finissent par disparaître, mais ils ne meurent pas parce qu'on peut les retrouver. Par exemple, dans Les mots disparus de Pierre Larousse, qui reprend les termes qui étaient présents dans la première édition en 1856. On en passe quelques-uns en revue.
Il y a tapissé,
oui.
Sarabande,
oui.
Perpète, consensus, John Baez,
en effet.
Paniqué,
oui.
S'expatrié.
Voilà, on a compris. C'était Valérie Lemercier dans Sacrée Soirée à l'époque. Guy Bollet, ça vous, j'imagine, ça vous titillerait de une fois que votre père a peut-être lu tout le dictionnaire, vous aussi, d'aller rechercher ces mots qui ont disparu et qui se retrouvent dans un dictionnaire aujourd'hui.
Ah oui, mais j'arrête pas. J'ai au moins 300 dictionnaires chez moi. J'ai un mur complet du dictionnaire et je passe ma vie dans un dictionnaire. Et parfois, il y a des mots. Je trouve un mot qui va changer mon histoire ou qui va induire ou me proposer une suite. Simplement un mot. Après, c'est un peu long à raconter. Je sais pas si j'ai assez de temps, mais
vous avez encore une bonne minute.
Bon, alors voilà. Par exemple, là, j'écrivais un monologue d'après Électre de Ripide. J'ai découvert le verbe apoltronner. Je tombe amoureux de ce mot qui veut dire rendre quelqu'un poltron. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on rend quelqu'un poltron, mais enfin, le verbe existe. En plus, c'est bizarre. C'est une particule privative. Ça devrait dire l'inverse. Mm-hmm. Et le verbe m'a tellement plu que j'ai voulu le mettre dans mon monologue, mais il n'allait pas avec le personnage. Donc, le personnage dans son monologue, il a inventé un autre personnage qui a pu placer ce verbe apoltronner. J'ai été heureux pendant une semaine.
C'est merveilleux. Donc, pour ces mots disparus, mais lorsque vous écrivez, vous en utilisez aussi beaucoup. Vous m'en avez appris plein. Lilial, est-ce que vous savez autour de cette table, par exemple, le Candide Lilial?
Moi, je dirais ça, qui a la blancheur du lys, non?
Oui, parce que vous avez lu sur ma feuille.
Oh, le vilain.
Voilà. Petit canard. Un ratichon.
Un petit rat.
Ah, bah non, c'est un curé.
Oui, c'est un curé.
Oui, bien sûr. Pécamineux.
Ça, je préfère pas.
De couleur rose clair tirant sur le violet, non. Mais uniquement le matin.
Relatif au péché. Et... Donc vous lisez Guy Bollet, mais vous n'allez pas voir les mots que vous ne connaissez pas.
C'est
ben non, truc, mais...
non. Oui, c'est dans la poésie de Guy Bollet.
Ça rentre. En tchèque. Donc...
Pécamineux, c'est ce qu'a donné impeccable, peccable et tout ça. Voilà. Impeccable, c'est celui qui n'a pas de péché. Peccable, c'est celui qui fait des péchés.
Aigrotant, les wagons aigrotants, là, on peut deviner.
C'est comme Vizorek.
souffre-teux maladif. Ouais. Ah, non, oui, il est en forme. Ah, là, vous... est en forme. D'ailleurs, il a écrit un joli sketch.
Oui, vous avez dit que vous étiez comédien. Alors là, oui. C'est raté, fallait pas en parler. Vous recevez un rôle merveilleux, celui de Hervé Mariton. Vous vous souvenez peut-être, ancien ministre sous Villepin, ancien candidat à la primaire à droite.
Ah d'accord.
On a appris, il y a trois jours, qu'il se lance dans le théâtre et il joue Solzhenitsyn en ce moment. Alors là, évidemment, ça fait plaisir à ses petits copains, Nicolas Sarkozy, notamment Guillaume Meurice. Et puis d'autres vont apparaître. On se rend sur la scène du théâtre pour écouter comment ça se passe.
J'ai vécu toute...
Les trois coups sont passés, allez-y.
J'ai vécu toute ma vie sous un régime communiste.
Pardon ?
J'ai connu la faim, le froid, le goulag.
Attends, t'es vite un médecin, il y a Mariton qui fait un AVC.
Mais pas du tout, monsieur Sarkozy, je récite Solzhenitsyn.
Attends, au secours, il y a un espion à la solde de Poutine.
Vous vous méprenez, je fais du théâtre.
C'est une blague ?
Vous rirez moins quand j'aurai un Molière.
Oh merde, c'est encore pire que ce que je craignais.
Vous devriez vous y mettre, vous aussi.
Pour jouer quoi ?
Pour vous, je verrais bien une pièce de boulevard.
Qu'est-ce que vous insinuez, là ?
Que, par exemple, vous avez une bonne tête à jouer dans Pouic Pouic.
Pouic Pouic ! Oh, Seigneur Jésus-Marie-Joseph !
Christine Boutin !
Ah, putain, manquait plus qu'elle.
Moi aussi, je peux faire du théâtre.
Vous n'avez fait que ça toute votre vie, non ?
Ah, je peux tout jouer, l'évanouissement, l'inceste...
L'avortement
Ah ça non, hein, sur la tête de mon cousin, jamais.
Non, s'il vous plaît, ne jurez pas, Christine.
Je vais appeler Robert Hossein pour qu'il me fasse jouer la Vierge Marie au Palais des Sports avec 200 figurants, des dromadaires, un bébé qui tombe du ciel...
Eh ben, quand Balthazar il va arriver, ça va lui faire tout bizarre à Cricri de voir un noir.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Oh, n'attendez plus que vous, monsieur Fillon.
Ah ben ça, pour la comédie, on a une pointure. Tiens.
42.
Pardon ?
Si vous voulez m'offrir des chaussures, c'est ma pointure.
Justement, pour les costumes.
Moi, je venais signer mon contrat pour l'adaptation de Columbo au théâtre.
Le voici.
Oui, je vais aussi signer celui de ma femme.
Mais on voit jamais sa femme à Columbo.
C'est pour ça que Pénélope a choisi le rôle.
Les amis, je suis tellement content qu'on se retrouve tous...
Sur scène.
À jouer la comédie.
Oh, ça me rappelle tellement la politique.
Bravo, engagé. Engagé, voilà, engagé.
Merci Guy Bollet, comédien.
Oui, vous auriez pu me faire répéter un peu avant.
Ah bah ça, c'est pas le principe.
Oh, ben ah d'accord, c'est un piège.
On en a pété des carrières de comédien.
Je suis cuit là.
Dans ce livre, votre papa se lie d'amitié avec Pierrot, qui lui aussi a un amour des livres, mais tellement sacré, un rapport sacré au livre, qui c'est la Bible, son livre favori, qu'il devient curé. Vous dites, il s'appelle l'abbé Delvaux. L'abbé Delvaux connaît la mécanique des âmes aussi bien que celle des motocyclettes Peugeot. On peut dire que ça résume un petit peu aussi le cœur du roman, avec ses allers-retours entre le côté ouvrier, le forgeron qui a commencé à 14 ans, etc. Et l'inspiration l'absolu. Et l'absolu.
Mais les abbés de l'époque étaient un peu comme ça, hein, faut pas oublier, ils avaient leur soutane et puis ils bricolaient, quoi. Ils avaient les mains pleines de cambouis et tout ça.
Guy Bollet, donc, dans ce roman que nous vous recommandons chaleureusement, nous avons adoré le fond et le style virevoltant, tel un boxeur. Quand Dieu boxait en amateur, c'est paru chez Grasset. Merci beaucoup les amis, Clara Dupont-Monod, Hippolyte Girardot, Alex Guillaume, merci beaucoup. Guy Bollet, on va se retrouver demain avec Laure Calamy, qui joue notamment dans la série 10%. Et on va laisser le mot de la fin à Guy Bollet, aujourd'hui nouveau grand-père.
Mon téléphone sonne. Que se passe-t-il pour Vulcain ? Je regarde à deux fois, c'est 3h du matin. J'entends alors une voix qui me dit « Par Jupiter, il est né le marmot. Par Zeus, me v'là grand-père. Il se prénomme Ezra, sa vie sera divine, puisqu'il est né sous le règne de la déesse Charline. »